Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La deuxième visite d'Emmanuel Macron en Algérie depuis son élection en 2017, elle débutera cet après-midi. Visite officielle et d'amitié de 3 jours pour le président français qui se rendra à Alger et à Oran. Notre invité sera Georges Morin, membre de la commission Mémoire et Vérité mise en place après la remise du rapport Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Plus de 2000 mineurs tunisiens ont rallié clandestinement l'Italie depuis janvier dernier. C'est ce qu'annonce le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Regard dans votre journal sur le travail des ONG face aux violences faites aux femmes. Nous écouterons Céline Elkik, assistante sociale au sein de l'association libanaise CAFA. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes de Corse, des communes frappées par des orages qui ont fait 5 morts à travers l'île jeudi dernier. Le président français entamera cet après-midi une visite officielle en Algérie. Un déplacement à Alger et à Oran jusqu'à samedi prochain. Emmanuel Macron sera accueilli par son hôte et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux dirigeants se recueilleront ensemble au mémorial des martyrs avant de s'entretenir en tête-à-tête. La délégation comptera 90 personnalités, des élus, des représentants du monde économique, des représentants de culte ou encore des personnalités qui ont accompagné le chef de l'État sur la question mémorielle. Alors que la relation entre les deux pays est encore très marquée par 132 ans de colonisation française. Entretien avec Georges Morin, membre de la commission Mémoire et Vérité, mise en place après la remise du rapport Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Georges Morin.
Les relations s'étaient un petit peu dégradées après les propos qui avaient été rapportés par Le Monde. Vous savez, quand Emmanuel Macron avait reçu les petits-enfants d'Algérie, c'est-à-dire les fils de pieds noirs, de nationalistes, de harkis, etc., de juifs, de chrétiens d'Algérie, etc. Il avait effectivement réuni ces jeunes sur la pelouse de l'Élysée, et puis il avait le sentiment, moi c'est ce que j'ai compris, hein, que la lutte qu'il menait pour que les questions mémorielles soient évoquées en France, elle était partagée par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui s'était engagé aussi à nommer justement un Stora algérien, si je puis dire. Voilà. Et puis quand on a vu effectivement que le Stora algérien, c'était le directeur des archives, c'était pas du tout un historien, mais un fonctionnaire directeur des archives, qui en plus a été dénoncé par les historiens algériens comme n'ayant jamais ouvert les archives algériennes aux chercheurs algériens.
Et vous, Georges Morin, vous mettez régulièrement l'accent sur la pluralité des mémoires.
L'Algérie, si on s'y intéresse un petit peu, bon, non, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, si je puis dire, parce que je suis né à Constantine, donc en Algérie, et je suis un pied noir d'Algérie, voilà, et un pied noir qui a grandi avec la guerre. Hein. Vous savez, j'avais 12 ans en 54 quand elle a éclaté, et j'avais 20 ans, ouais, je suis né le 19 mars 1942, et j'ai soufflé mes bougies de 20e anniversaire le 19 mars 1962, le jour d'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Donc pour vous dire que la guerre m'a plutôt marqué. J'avais des parents, heureusement, qui étaient très très ouverts, une maman très catholique, un papa très républicain, et voilà, qui m'ont... Et puis des enseignants aussi qui m'ont très vite ouvert les yeux. Et puis je vous dis, à 12 ans, quand on tombe dans un conflit aussi terrible, évidemment, bien sûr qu'on mûrit rapidement. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon, voilà, moi, je suis un exemplaire d'une de ces populations, qui était la population européenne d'Algérie, hein, quand même 1 million de personnes en 54, les dernières statistiques. J'ai eu la chance de naître dans une ville qui est Constantine, qui était la seule grande ville de l'Algérie coloniale, où les Européens étaient minoritaires. Nous étions dans Alger, il y avait pratiquement à Oran, il y avait pratiquement 60% d'Européens dans la ville d'Oran. À Alger, pratiquement la moitié des habitants étaient Européens. Et à Constantine, la troisième ville, nous étions 10% d'Européens, avec 20% de population juive et 70% de population algérienne musulmane. Donc vous voyez, moi j'ai vécu dans mon quartier, dans mon école, dès que je suis allé à l'école maternelle, puis à l'école primaire, etc. J'étais dans un milieu judéo-arabe permanent. Donc voilà, là aussi, c'est une chance extraordinaire, parce que voilà, je dis souvent, ça fait rire les amis, mais moi c'est très sérieux, je suis pas à l'aise quand je suis dans une société monocolore, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que la France me plaît aussi. J'apprécie beaucoup de pas avoir en face de moi uniquement des clones, quoi. Voilà, c'est le point de vue du petit pied noir de Constantine. Mais voilà, nous étions quand même 1 million, encore une fois, en Algérie. Alors là aussi, avec une vérité que je clame haut et fort en permanence, c'est que on parle des colons d'Algérie, bien sûr. Il faut savoir que les colons, ça fait tout de suite exploitants, exploiteurs. Et il y avait 10% de pieds noirs qui étaient dans la campagne, qui étaient agriculteurs. Les 90% des pieds noirs vivaient en ville. Et ils étaient commerçants, instituteurs, pharmaciens, avocats, artisans, etc. La mère de Camus faisait des ménages, la mère d'Emmanuel Robles faisait des ménages aussi, voilà. Et puis il y avait aussi donc population juive, hein, d'environ 300 000 habitants, qui a été naturalisé par la Troisième République par le décret Crémieux en 1870, et qui a malgré la résistance du rabbinat qui ne souhaitait pas que les juifs s'assimilent parce que voilà, vous savez c'était en fait Napoléon III qui avait dès 1857 voulu naturaliser entre guillemets, enfin donner la nationalité française. La citoyenneté française à tous les indigènes d'Algérie, puisque les juifs et les musulmans étaient à l'époque des indigènes, qui n'avaient aucun droit, donc il avait prévu de leur donner la nationalité française, et puis alors que un grand monsieur a été battu en 1871 à Sedan, et donc la Troisième République, par le décret Crémieux, a décidé de, en disant, bon, naturalisé à l'époque, il y avait 3 millions de musulmans, c'est beaucoup, alors que bon, il n'y a que 300 000, il n'y avait même pas à l'époque, il y avait peut-être 200 000 juifs, on va essayer avec les juifs d'abord, et les rabbins ont lutté à mort contre, parce que la citoyenneté française impliquait qu'on renonce au statut personnel, c'est-à-dire, parce que dans l'Algérie coloniale, les musulmans et les juifs avaient gardé tout ce qui était les questions d'héritage, de mariage, etc., toutes les questions de statut personnel étaient réglées par la loi coranique pour les musulmans et par la loi hébraïque pour les juifs. Donc s'ils acceptaient la nationalité française, ils étaient obligés de renoncer à ce statut personnel particulier, et ils devenaient des citoyens français à part entière, mais ils renonçaient à leur statut personnel religieux, si vous voulez. Voilà.
Comment avez-vous accueilli, Georges Morin, les différents pas faits par le président français, notamment lors de son premier quinquennat, sur les différentes questions mémorielles?
D'abord, avant même qu'il soit élu, moi j'ai salué sa déclaration de 2017 à Alger, il était candidat. Ça m'a rappelé, si vous voulez, François Mitterrand, qui a eu le courage de parler de l'abolition de la peine de mort dans un pays qui n'en voulait pas, c'est avant les élections. Il leur avait dit, voilà, je vous préviens, si je suis président de la République, je vais abolir la peine de mort. Je sais que ça ne vous plaît pas, voilà. Mais Macron, c'était un peu pareil. Voilà, il a eu le courage de dire en Algérie en 2017 qu'il considérait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Voilà, ce qui est effectivement, quand on regarde les choses de près, c'est, même si juridiquement tout ça se discute, mais c'est vrai que c'était l'invasion de l'Algérie, et puis surtout la façon dont on a traité ensuite les Algériens, ça a été un siècle et demi d'indignité, de massacre, de bon bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais quand on regarde l'histoire de près, c'est pas très glorieux pour la France. Moi je dis la France, elle a fait des grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité, elle a piétiné toutes ces grandes valeurs en Algérie. Hein, voilà, c'était... y compris la laïcité aussi, puisqu'elle s'occupait beaucoup du culte musulman, voilà, bon bref. Donc même si encore une fois, bon, 1830 c'est pas aujourd'hui, hein, moi je suis pas responsable, et aucun Français ne l'est aujourd'hui de ce qui s'est passé en 1830, mais il faut savoir le reconnaître, simplement, voilà, dans l'histoire de France, c'est pas une page très glorieuse. Même si, encore une fois, tout cela, il y a des explications, voilà, il y avait un contexte dans toute l'Europe où l'ensemble de l'Europe commençait à conquérir des territoires. Elle l'avait déjà fait avec les Espagnols et les Portugais d'Amérique latine, mais les Anglais, les Français, les Allemands, tout le monde se partageait l'Afrique. Donc voilà, on n'est pas pire que les autres, mais il faut savoir reconnaître que les populations qui nous ont vu arriver, ben elles en souffrent encore, hein, parce qu'il y a des mémoires qui sont encore vives. Hein, voilà. On le voit avec l'émir Abdelkader, bon, qui était un personnage exceptionnel. Hein, je me rappelle, j'étais à l'hommage qui lui a été rendu en bois. C'est vraiment un sacré bonhomme là aussi, voilà, qui a été à la fois un grand résistant face aux Français, et puis qui ensuite, bon, vu de son éducation religieuse avec un islam très éclairé, s'est fait beaucoup d'amis en France, et qui a terminé, on a commencé à Damas en sauvant des Arabes chrétiens. Voilà, donc c'est un grand bonhomme qui est que les Algériens et les Français honorent à juste titre.
Georges Morin, membre de la commission Mémoire et Vérité mise en place après la remise du rapport Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Le président français aura, selon l'Élysée, un long échange demain avec de jeunes entrepreneurs à Alger. Emmanuel Macron ira aussi à la rencontre de jeunes gens à Oran. Cette visite intervient au terme d'une séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des accords d'Évian le 18 mars 62 et l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62. Plus de 2000 mineurs tunisiens ont rallié clandestinement l'Italie depuis janvier dernier. C'est ce qu'indique le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Cette ONG condamne, selon ses mots, les politiques inhumaines de l'Union européenne qui restreignent la liberté de mouvement. Selon l'agence européenne Frontex, la route de la Méditerranée centrale a été empruntée par plus de 42 500 candidats à l'exil entre janvier et juillet, soit 44% de plus que sur les 7 premiers mois de 2021. Et le navire humanitaire de SOS Méditerranée a secouru 41 migrants, des personnes qui étaient dans une embarcation en bois, une embarcation qui prenait l'eau, une opération menée au large de la Libye. La justice marocaine écarte la piste terroriste dans le meurtre d'une Française en début d'année près d'Agadir. L'accusé est atteint de troubles mentaux. La chambre criminelle d'un tribunal à Rabat a conclu à l'irresponsabilité pénale du meurtrier. La victime, âgée de 79 ans, avait été tuée le 15 janvier sur un marché de Tiznit. Elle résidait dans un camping proche de cette petite ville du sud du Maroc. La guerre en Ukraine, le bilan du bombardement russe qui a frappé hier soir une gare ferroviaire dans le centre du pays s'est alourdi. Bombardement qui a fait 25 morts et 31 blessés. Il a eu lieu au moment où l'Ukraine célébrait le jour de l'indépendance qui commémore sa séparation de l'URSS en 1991. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes de Corse, des communes de Corse du Sud et de Haute-Corse, frappés par des orages meurtriers jeudi dernier, des orages qui ont fait 5 morts à travers l'île. Gros plan sur le travail des ONG face aux violences faites aux femmes. L'actualité au Liban a récemment été marquée par la mort de Anna Khaled, une jeune mère de 2 enfants décédée après avoir été brûlée vive par son mari. Les associations dénoncent un niveau de violence domestique inédit. Entretien avec Céline Elkik, assistante sociale au sein de l'association libanaise CAFA.
Les violences domestiques au Liban existent depuis longtemps, mais on dit que la crise économique, peut-être il n'y a pas de confiance de la société avec la police ou bien la sécurité pour la protection des femmes. Alors, on entend plus de violences domestiques. Les femmes n'ont pas confiance 100% au système juridique et au système de police. Et parfois, les femmes sont plus vulnérables. Par exemple, cette femme était victime de son mari. Et elle n'avait pas le support ni du système juridique, ni du système de protection.
Vous parlez de Anna Khaled, qui a été brûlée vive par son mari et qui a succombé à ses blessures. Vous êtes assistante sociale au sein de l'association CAFA. Lorsque vous rencontrez les femmes victimes de violences, quels sont leurs premiers propos? Qu'ont-elles besoin de vous dire?
On a remarqué que la plupart des femmes dans cette situation ont changé leur décision ou bien ont changé leur plan vis-à-vis la violence qu'elles font face. Avant, les femmes ont plus l'initiative de faire stop à la violence. Alors que maintenant, les besoins essentiels d'alimentation, de médicaments, d'endroits de logement sont les priorités maintenant pour les femmes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent à CAFA, au centre de support, pour nous dire, comme assistante sociale et comme centre de service, qu'on est face à la violence, qu'on est victime de violence, mais on n'est pas prête, on n'est pas les ressources d'arrêter la violence qu'on vit avec à la maison. Parce qu'il y a un déficit de besoins essentiels pour eux et pour les enfants.
Comment guidez-vous ces femmes victimes de violences?
En premier lieu, il y a l'écoute des assistantes sociales qui font les assistantes sociales. On les donne le safety plan. Le safety plan, c'est-à-dire on les explique comment elles peuvent se protéger, comment Elles peuvent nous contacter au hotline, contacter le ISF, Internal Security Forces, la police, c'est-à-dire. Il y a un nombre, un contact number spécifique pour soumettre les plaintes de violence domestique. On fait le support social, le support psychologique et le support légal. Et quand on dit le support légal, c'est-à-dire un avocat donne des informations légales et parfois on fait des autorisations légales pour soumettre des complaintes de divorce ou bien de violences domestiques. Et parfois on aide les femmes aussi si elles n'ont pas une maison ou bien la maison de leurs parents n'existe pas, alors on les réfère à un logement. Et parfois aussi on les réfère chez un médecin légiste quand il y a des bleus sur leur corps. C'est en général nos services. On fait un plan d'action avec les femmes, les GBV cases, les femmes battues, pour en sortir du cycle de violence et mettre un stop le nombre des femmes victimes de violence, yani qui sont mortes dues à la violence domestique, augmente. On entend de plus en plus des cas qui meurent dues à la violence domestique. Et rien ne change, ni au niveau juridique, ni au niveau de législation. OK, il y a la loi de 193 sur 2014 qui donne le droit à la femme battue de mettre recours à un juge d'urgence pour demander une décision de protection. Mais cette loi ne protège pas les femmes à 100%, c'est-à-dire il reste. Et s'il n'y a pas de législation qui vraiment met des limites aux abuseurs et ne les fait pas, par exemple, payer leurs fautes à travers de l'argent ou bien à travers le prison, rien ne va changer. La violence contre les femmes va continuer et le nombre de femmes battues va augmenter. Même au niveau national, on n'a pas de statistiques qui donnent vraiment les femmes qui sont battus. Il y a les NGO comme CAFA, par exemple, qui donnent les nombres par année. Et malheureusement, chaque année, le nombre des femmes battues augmente de plus que l'année passée. Dans la communauté libanaise, la plupart, pour ne pas dire la majorité des femmes libanaises, on ne quitte pas la maison maritale, on ne fait pas la divorce parce qu'il y a des enfants. Toujours les enfants, l'existence des enfants dans la famille est la cause dont les femmes ne prennent pas une décision de quitter la relation violente entre le couple. Mais on peut dire que parfois, la divorce ou bien la séparation, c'est la meilleure solution pour les enfants. Alors, comment alerter les femmes? On peut dire que l'éducation aussi joue un rôle très essentiel dans nos familles. Comment éduquer les filles? Ne pas accepter la violence et le pouvoir négatif de l'homme.
Céline Elkik, assistante sociale au sein de l'association libanaise CAFA. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 12h18 à 12h30 de votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.